sommes ici au bord du lac du Der, qui fait partie du domaine des grands lacs de la Seine, et qui évoque irrésistiblement la phrase de Tolstoï « Les réponses à toutes les questions étaient admirablement exposées, et ces réponses ne faisaient pas l'ombre d'un doute, car elles n'étaient pas l'œuvre d'une pensée humaine constamment faillible, mais tout le produit de l'activité administrative. » Ce lac est l'expression même du génie organisateur, gaulliste, néo-constructiviste. C'est un lac artificiel qui est le plus grand lac d'Europe et qui est voisin d'un autre lac qui est le lac d'Orient, qui est situé à quelques dizaines de kilomètres de là. Pourquoi est-ce que ce lac existe? Ce lac, alors nous l'avons devant les yeux, il y a une sorte de jetée et on pourrait se croire sur la Baltique, on pourrait se croire sur les berges d'un fleuve russe. L'eau est extrêmement claire, il y a des petites îles avec des roseaux et de la végétation. L'ensemble est extrêmement plat, construit, gigantesque, impressionnant et assez dérangeant dans sa simplicité. Pourquoi est-ce que ce lac existe? Il existe à cause de la grande crue de la Seine, qui est la crue du 21 janvier 1910, qu'on connaît, qu'on a vu par des tas d'images, par des tas de cartes postales, où la navigation a été interdite sur la Seine à Paris parce que la Seine à Paris avait débordé de manière absolument radicale. Le zouave du pont de l'Alma avait eu en 1910 de l'eau jusqu'aux épaules et les députés devaient se rendre à la chambre en barque à fond plat, moins sans doute pour travailler que pour montrer à leur mandant que la République radicale était à l'abri de toutes les épreuves naturelles. À 9h, ce jour-là, le 21 janvier 1910, l'usine qui produisait l'air comprimé parisien dans le 13e arrondissement est inondé et se ferme. Les horloges publiques, les ascenseurs cessent de fonctionner, le temps s'arrête et, sauf pour les plus vaillants, les adultères aussi, le Paris inondé sort de la durée bergsonienne, le traumatisme est immense. Et aussitôt, diverses commissions administratives réunies proposent la construction en amont de Paris, là où nous sommes, d'un lac régulateur pour pouvoir drainer la totalité des eaux des cours d'eau, des eaux de pluie, et pour éviter qu'ils ne viennent grossir les affluents de la Seine et la Seine elle-même, évitant ainsi le renouvellement de ce type d'inondation. Et dans les années 30, il y a une première tentative qui échoue à cause des forêts de l'Aube, puisque la création du lac supposait de détruire les chaînes de l'Aube qui étaient très renommées. Et puis, finalement, c'est ce lac qui est créé dans les années 60 et qui représente le dernier rêve d'un monde un peu disparu avec l'aéroport d'Orly. C'est l'époque du marchand de sable de l'ORTF, endormant d'un geste ministériel les enfants des populations ouvrières. Dormez, nounours et le ministre de l'Intérieur veillent sur vos rêves. J'ai vu finir d'ailleurs cette époque à l'occasion de la construction des dernières centrales nucléaires qui ne sont après tout que la version industrielle et énergétique de ce que nous voyons ici avec le lac du Der, cette idée de l'homme totalement maître et possesseur de la nature. C'était à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing quand à la pointe du Raz, EDF avait décidé de construire une centrale nucléaire qui était la centrale nucléaire de Plogoff. Et il y a eu des émeutes, il y a eu des manifestations. Des vieilles bretonnes en coiffe s'opposaient aux gendarmes mobiles. Et on avait fait venir des compagnies républicaines de sécurité, des gendarmes mobiles de partout. Et puis un jour, on les avait fait charger, évidemment, sur les Bretons qui ne voulaient pas de leur centrale nucléaire. Et les manifestants chevelus venus d'un peu partout en Europe s'étant écartés, les gendarmes s'étaient trouvés face au drapeau d'une unité des forces navales françaises libres, avec deux vieux quartiers-maîtres échappés des temps héroïques. Et là, évidemment, les gendarmes ont décidé de ne pas cogner. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient la même réticence aujourd'hui, mais ils ont décidé de ne pas cogner. C'était la fin. Et d'une certaine manière, le gaullisme constructeur, celui de l'ouvrier, celui des grands ensembles, celui que nous voyons là dans sa version naturelle au lac du Der, s'était brisé contre lui-même. Ici, sur les bords du lac, vous avez des chevaux, des taipans, des chevaux qui ressemblent un peu au cheval de Przewalski, qui s'ébattent en liberté. Alors, j'essaie d'en voir, mais on n'en voit pas. Il y a un cycliste, en revanche, casqué avec ce casque étrange qui le fait ressembler au spermatozoïde du film de Woody Allen, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Mais il n'y a pas de taipan. En revanche, près du lac d'Orient, il y a l'auroch des frères Eck. Les frères Eck étaient deux naturalistes de Munich qui ont essayé de créer l'auroch germanique primitif absolu et qui, dans la foulée des Einsatzgruppen, essayaient de répandre un peu partout dans la Pologne et dans l'Ukraine martyrisée par les troupes nazies et purger de ces éléments juifs des aurochs qui, d'après eux, les remplaceraient avec beaucoup d'avantages. Les frères Eck sont évidemment passés en jugement après la guerre et on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. J'ai réussi à emmener ici, avec nous, celui que nous avons croisé à plusieurs reprises sur le chemin de Troyes, Edmond de la Mirande, le spécialiste de Bagramco, car Bagramco a été inspiré par le lac du Der. Alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a été inspiré de manière entièrement virtuelle, puisque Bagramco a quitté la France en 1940, qu'il n'en est jamais revenu, mais que visiblement, à distance de temps, et peut-être par l'envoi de photographies, cette épopée l'avait inspiré, et c'est ainsi qu'il y a consacré un de ses tableaux, dont Edmond de la Mirande va nous parler maintenant.
En effet, Bagramco a peint un tableau inspiré du lac du Der, et surtout inspiré des trois villages qui ont été détruits pour sa réalisation.
Vous voulez dire qu'il y a des... Il y avait des villages ici qui sont désormais sous l'eau?
Oui, il y en avait trois. Il y avait le village Nuisement au bois, Champ de Coq et Champ Aubert au bois. C'est un tableau très impressionnant parce que apparemment il ferait 10 mètres de haut, 10 mètres de large. C'est un tableau qui s'appelle Nous ne reviendrons pas. Et sa particularité, c'est qu'il a complètement disparu. C'est-à-dire que personne ne sait ce qu'il est advenu de ce tableau. La légende raconterait qu'un de ses meilleurs amis d'enfance, Grigoriev, serait mort avec et l'aurait enterré avec lui. Et dans la correspondance de André Breton et de Bagramco, apparemment, Bagramco lui dirait que ce qui est représenté dans ce tableau, c'est trois hommes sous l'eau, le regard tourné vers l'abysse et qui tournent le dos à la surface. Chacun des hommes représenterait un des villages qui est enfoui. Mais une partie de la beauté de ce tableau, c'est que personne ne sait, alors que c'est un tableau extrêmement célèbre.
Écoutez, ça donne une excellente transition pour l'idée de rêver qu'ici a quelque chose d'utile et qui donnerait tout son prix à la fantaisie, à l'arbitraire, à la créativité pure. Au fond, c'est très très bien tout ça, le lac du Der, le tableau disparu de Bagramco que personne ne connaît. Il manque quelque chose ici malgré tout qui serait une résidence d'écrivain. Je souhaite qu'on crée une résidence d'écrivain au bord du lac du Der. Une grande résidence d'écrivain en style Babar Célesteville, vous voyez, un peu quelque chose d'un peu stalinien. Il serait là 4 ou 5, encouragé quotidiennement par l'émission de circulaires et par l'argent public. Napoléon disait, il n'y a pas de littérature en France, c'est la faute du ministre de l'Intérieur. Et parmi ces écrivains, je suis sûr que quelques-uns écriraient en style rustique, dans le souvenir d'une sorte de Julien Gracq forestier, ami de la nature, de longues glissades allemandes sur le Der gelé qu'on voit en face de nous. Les autres s'inquiéteraient de l'avenir de ces villes qu'on distingue au loin, comme un halo de lumière derrière les arbres. Seront-elles enfin les cités radieuses d'une France enfin délivrée de toutes les superstitions? Et puis, au fond, peut-être que l'écrivain changerait d'opinion en écrivant sur la France, sur le lac du Der, sur l'homme maître et possesseur de la nature. Et ça serait bien, parce que souvent, l'écrivain se lasse là où le fonctionnaire s'entête. C'est la raison pour laquelle l'écrivain est supérieur, car il peut changer d'idée fixe. Et j'espère au moins que quelques écrivains raconteraient une enfance imaginaire dans le Der, parmi les excavatrices gigantesques qui ont servi à construire ce lac étrange, parmi les filles en robes imprimées des entrepreneurs de travaux publics concussionnaires, ou bien la poursuite sans retour parmi les ajoncs que nous voyons là, devant nous, d'une sorte d'Yvonne de Galais de la Haute-Marne, entrevue entre les deux aurochs des frères Lutz et Marc Eck, et les Taïpans en liberté, une femme impossible à oublier, et qui gâchera pendant toute la vie de ses écrivains la compagnie des femmes réelles, jamais aussi réelles pourtant dans l'émotion qu'elles provoquent, que cette ombre fugitive, entrevue un instant, avec le souvenir de Bagramco sur les rivages du Der.